Bonjour et bienvenue sur Retour en Air. Aujourd'hui, nous partons dans l'espace avec Attis et James Webb. Puis retour sur Terre avec Charles pour plonger au cœur de l'intelligence artificielle. Cet outil incroyable qui peut même créer de la musique. Et pour finir, rien de mieux pour illustrer ce magazine que la chronique D comme Dimitri. Comme promis, nous commençons ce magazine La tête dans les étoiles avec Attis.
Si James Webb vous fait penser au nom du dernier chanteur à la mode, alors vous êtes sûrement passé à côté de cette information capitale pour l'histoire de l'humanité. Pour beaucoup, le 25 décembre 2021 a été synonyme du passage du Père Noël. Mais pour les passionnés d'astronomie, le plus beau cadeau a été le lancement de la fusée Ariane 5 avec à son bord James Webb, un télescope surpuissant ayant pour objectif trois domaines principaux. Détecter la lumière des premières galaxies apparues peu après le Big Bang, étudier la formation de l'évolution des galaxies, et enfin, mieux cerner la naissance des étoiles ainsi que des exoplanètes. Le télescope observe dans le domaine de l'infrarouge, c'est-à-dire le rayonnement entre la lumière visible et les micro-ondes. Ainsi, l'observatoire sera en mesure de remonter loin dans le passé de l'univers pour voir les premières galaxies en formation et inspecter l'intérieur des nuages de poussière dans lesquels les étoiles et les planètes se sont formées. Il aura, pour remplir sa mission, un panel assez large d'équipements à la pointe de la technologie, comme par exemple une caméra pour l'infrarouge proche, qui permettra entre autres de détecter les étoiles apparues après le Big Bang, ainsi que de chercher des supernovas. Un spectromètre pour l'infrarouge proche, qui permettra quant à lui d'étudier les éléments chimiques dans les galaxies lointaines, ainsi que de nombreux autres. Mais pourquoi faut-il qu'il soit envoyé dans l'espace ? C'est pour la maudite somme de 9,7 milliards de dollars que la NASA s'est lancée dans ce gigantesque projet. Cela serait sûrement revenu moins cher si le télescope avait été positionné sur Terre. Mais ce dernier nécessite des conditions d'observation très particulières. En effet, l'atmosphère terrestre risquerait de rendre les images non analysables par les scientifiques, ce qui rend cette mission d'autant plus complexe car, une fois lancée, aucun ajustement ne pourrait être ajouté. Ce projet ne date pas d'hier. Dans les années 70, l'astronome Edwin Hubble se lance dans un projet fou qui consiste à envoyer un télescope de grande envergure dans l'espace pour filmer des endroits non accessibles depuis la Terre. Le manque de budget et de connaissances sur l'espace font prendre du retard au lancement. Et ce n'est qu'en 1990 que le télescope nommé Hubble, en hommage à l'astronome américain, rejoint l'espace. Aujourd'hui, son petit frère est en route pour le rejoindre. Mais il faudra environ un mois avant que le télescope n'atteigne les 1,5 million de kilomètres qui le séparent de son emplacement final. Et c'est dans ce petit nid douillet, à moins 223 degrés, que James Webb passera au minimum les 5 prochaines années de sa vie à nous en apprendre chaque jour un peu plus sur l'histoire de l'espace.
Merci Attis. Chers auditeurs, attachez vos ceintures, nous allons plonger au cœur des IA. Mais à quoi peut servir une intelligence artificielle ? Eh bien, entre autres, ça peut créer de la musique. Ne vous inquiétez pas, Charles va tout vous présenter.
Bonjour Caroline et merci pour cette introduction. Bonjour chers auditeurs, en effet, restez avec nous, nous allons partir pour le monde merveilleux de l'intelligence artificielle. Ne vous inquiétez pas, c'est très simple. Consacrer une chronique aux mathématiques est un choix audacieux, mais non moins stimulant. Les mathématiques, dit-on, on les adule ou on les déteste. Bon, pour ma part, j'avoue que c'est ni l'un ni l'autre. Adolescent, je n'étais pas très bon en mathématiques, un peu frustré parce qu'au fond, j'aurais bien aimé. Alors, les mathématiques, les maths pour les intimes ou les maths pour les récalcitrants, je les aime bien, surtout quand elles se cachent là où on ne les attend pas. Alors une fois devrait devenir coutume, je vais vous parler mathématiques qui sonnent ludiques, parlons musique. Et oui, en écoutant de la musique, vous faites des mathématiques. En 1712, Leibniz, un scientifique, mathématicien, logicien, diplomate, juriste, bibliothécaire et philosophe allemand, disait « La musique est un exercice caché d'arithmétique, l'esprit n'ayant pas conscience qu'il est en train de compter. » La relation entre musique et mathématiques remonterait au VIe siècle avant Jésus-Christ où Pythagore, un philosophe grec, plus connu pour son fameux théorème, établit la relation entre la longueur d'une corde et la hauteur des notes, permettant ainsi la compréhension des fréquences. Pour lui, la musique est une science au même titre que l'arithmétique, l'astronomie et la géométrie. Continuons sur cette lancée. Une note peut être définie entièrement par quatre paramètres : la durée, l'intensité, la hauteur et le timbre. Ensuite, l'harmonie entre deux notes vient de leur rapport de fréquence. On parle d'octave et de quinte, par exemple. Mais alors, la musique serait-elle à ce point définie par les mathématiques qu'une mélodie respectant une équation bien établie deviendrait forcément un tube au sommet des charts ? Dans ce cas, une machine pourrait-elle composer de la musique et éclipser nos artistes si chers à nos oreilles ? Pionnière de la science informatique, Ada Lovelace, dans ses notes sur la machine analytique de Charles Babbage, parlait déjà en ces termes au milieu du 19e siècle. La machine pourrait composer de manière scientifique et élaborée des morceaux de musique de n'importe quelle longueur ou degré de complexité. Mais, pourriez-vous m'interrompre, et la créativité dans tout cela ? Oui. N'est-elle pas l'apanage de l'être humain ? Eh bien, développons. Le professeur Stein, dans un article paru en 1953, décrit la créativité comme une nouveauté liée à une forme de valeur. Cette définition est affinée en 2008 par les professeurs Sarkar et Chakrabarty en ces termes. La créativité apparaît à travers le process par lequel un agent utilise son habileté à générer des idées, des solutions ou des produits nouveaux ou innovants et de grande valeur. Du jargon de scientifique, me diriez-vous. Un agent avec une telle capacité ne pourrait-il pas être autre chose qu'un être humain ? Pourrions-nous seulement imaginer une machine avoir une telle place ? Ne pourrions-nous pas distinguer une création informatique d'une création humaine ? Eh bien, ce n'est pas si sûr. Et l'intelligence artificielle, une branche de l'informatique balbutiante, initiée au début des années 50 par Alan Turing, qui se demande à l'époque si les machines pourraient penser, va s'y atteler rapidement. En 1957 naît Iliac Suite, un système capable de générer des quatuors de cordes. Ce système est dit stochastique, c'est-à-dire aléatoire suivant un modèle statistique. Ce modèle est appris grâce à un process mathématique appelé chaîne de Markov cachée. Il permet d'engendrer une séquence d'éléments quelconques et donc, potentiellement, une séquence de notes, une partition. Les chaînes de Markov s'appuient sur une idée forte. L'événement courant ne dépend que de l'événement qui le précède. À partir d'un ensemble d'apprentissages composé d'une centaine de partitions, le système apprend quelles sont les notes probables succédant une note donnée. Il est alors possible d'engendrer une suite de notes, créant ainsi une partition statistiquement proche des partitions d'apprentissage. La génération de musique est un domaine de recherche très intéressant, par exemple pour la compréhension du processus de création chez l'homme ou, à l'inverse, l'aide à la création artistique. La recherche est prolifique et utilise tous les moyens à sa disposition tels que les réseaux de neurones profonds, le deep learning, qui permettent un apprentissage de modèles musicaux beaucoup plus complexes que les modèles stochastiques. L'idée derrière l'apprentissage profond est de laisser un algorithme extraire les éléments importants d'un ensemble d'apprentissage, par exemple l'ensemble des œuvres d'un artiste. L'algorithme ne va pas seulement calculer la probabilité d'une suite de notes, mais va automatiquement extraire ce qui fait le style de l'artiste. Revenons alors à notre question initiale. Peut-on apprendre un modèle à partir de musique au sommet des charts et générer des hits à coup sûr ? Eh bien, ce n'est pas si simple. Des chercheurs tels que les professeurs Salganik, Dodds et Watts en 2006 ont montré que la place des chansons dans les différents tops est très subjective. Mathématiquement, l'appréciation d'une musique est un problème dit mal posé. Le Graal ou la boîte de Pandore du label de musique n'est pas pour demain. Par contre, l'aide à la création semble une voie prometteuse. Un album nommé Hello World, dont la musique a été suggérée par Flow Machine, un algorithme de deep learning, est sorti en 2017. Un des artistes bien connus, Stromae, qui a participé à cette expérience, semble conquis et positif quant à l'avenir de tels outils à l'aide à la création. Enfin, pour finir sur une note d'humour, je vous poserai la question, connaissez-vous le comble pour une IA musicale ? C'est de générer de la musique électronique, bien sûr. Une transition cadeau pour la désormais incontournable chronique D comme Dimitri.
Et oui, Charles, à présent, nous allons retrouver Dimitri avec sa chronique D.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Si je vous dis musique électronique, vous avez sans doute l'image d'un tas de gens qui dansent dans une boîte de nuit ou dans un appartement et un DJ qui passe cette fameuse musique qui a de quoi agacer le voisinage. Mais c'est un abus de langage et c'est plus que ça. La musique électronique n'est pas qu'un simple genre musical. C'est une toute autre manière de produire de la musique, sans utiliser un quelconque instrument, comme un piano, une guitare, une batterie, etc. Et ça ne date pas d'hier. En effet, il faudrait remonter dans le temps, au 19e siècle. C'est à cette époque qu'on fleurit des recherches sur une potentielle nouvelle méthode pour produire de la musique. On parlait surtout d'instruments électriques et non électroniques, cela n'arrivant que plus tard. Ce qu'on peut considérer comme le tout premier synthétiseur, l'Electromusical Piano d'Elie Chagray. Il utilise pour cela de nombreux télégraphes émettant chacune une fréquence différente, de telle sorte qu'ils produisent une note. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, en passant par les dièses et les bémols. Est alors ajouté un clavier de piano. Cependant, il ne se limitait qu'à un seul octave et le son ne pouvait pas être modifié. Dans les années 1920, un nouvel instrument faisait son apparition, la thérémine, qui n'utilisait pas de clavier ni de cordes, mais des antennes. Il utilisait le principe des ondes Martenot, avec une antenne pour contrôler le volume et une autre pour contrôler la hauteur de la note. C'est cet instrument qui va être utilisé dans les films mettant en scène des invasions extraterrestres. Il faudra alors une certaine précision du geste pour obtenir des notes parfaites, car cet instrument est tout sauf facile à jouer. À la fin des années 1930, en 1939 pour être précis, un nouveau type de synthétiseur fait son apparition, le Novacord. Sa particularité est de posséder 12 oscillateurs maîtres disposant chacun des 12 notes chromatiques, Do à Si en passant par les dièses et les bémols. Et chaque oscillateur comporte une chaîne de division par deux, ce qui fait que chaque note est reliée à une source, soit 72 sources au total, pour 72 notes. Par conséquent, on peut jouer plusieurs notes en même temps, raison pour laquelle le Novacord peut être considéré comme le véritable premier synthétiseur polyphonique de l'histoire. À l'époque, la musique électronique était encore au stade expérimental dans les années 50, avec notamment l'apparition de studios dédiés à la recherche sur la musique électronique. Dans les années 1960, un nouveau type de synthétiseur fit son apparition, le synthétiseur modulaire inventé par Robert Moog et qui porte le nom de Moog Modular. Comme son nom l'indique, il comporte de nombreux éléments interchangeables, autrement dit des modules, permettant de modifier ou de moduler le son émis. On peut notamment citer des oscillateurs avec différents signaux, sinusoïdes, signal carré, triangulaire ou en dents de scie, une courbe de volume, ou ADSR pour les connaisseurs, des filtres, etc. On peut noter que la série britannique Doctor Who utilisera des sons issus de synthétiseurs. Les synthétiseurs vont alors connaître leur heure de gloire, notamment grâce à Wendy Carlos à la fin des années 60. On retrouvera alors des sons de synthétiseurs dans le single Abbey Road des Beatles. On notera aussi l'utilisation du Mellotron, un synthétiseur utilisant des sons d'instruments préenregistrés, de piano, de guitare, de violon, de trompette, etc. On le retrouve dans le single Strawberry Fields Forever des Beatles. Dans les années 1970, la musique électronique connaît une montée en popularité vertigineuse grâce au groupe allemand Kraftwerk. Et en France, elle a été démocratisée grâce à Jean-Michel Jarre. La boîte à rythme suivra le même chemin que le synthétiseur, mais il n'apparaîtra que dans les années 1930. Les années 1980 verront l'utilisation massive de sons électroniques issus de synthétiseurs ou de boîtes à rythme. Parmi ces dernières, on pourra noter les Roland TR-808 et TR-909, les Lindrums ou les Siemens SDSV, pour ne citer que les plus connus. Du côté des synthés, on citera le Sequential Prophet 5, le Korg MS-20, le Roland SH-101, le Juno 60, en plus de sa version digitale, le Juno 106. Chez Yamaha, on retrouve le DX7 et chez Moog, on note une version beaucoup plus compacte du modular, le Mini Moog. On notera aussi un synthétiseur qui permettra de jouer plusieurs notes sans avoir à toucher au clavier, c'est-à-dire un séquenceur, le Roland TB-303. De nombreux tubes des années 80 utilisent en masse des synthés et des boîtes à rythme. Cette nouvelle façon de produire de la musique sera davantage importante dans les années 90, avec notamment les Daft Punk qui utilisent un vocodeur, un synthé qui donne un aspect robotique à la voix, ou encore Michael Jackson qui fait beaucoup appel aux boîtes à rythme et aux synthés. Le DJ David Guetta se lancera aussi dans la musique électronique, notamment au début des années 2000. Désormais, on utilise un logiciel séquenceur qui permet de gérer plusieurs pistes en même temps. Les synthétiseurs sont désormais dématérialisés, c'est-à-dire qu'on peut n'en jouer que sur ordinateur. Il y a également l'apparition des contrôleurs MIDI, un système de communication digitale qui pilote les instruments logiciels. On peut citer les fameux Launchpad de Novation ou encore les Machine et Complete Control de Native Instruments. Ainsi, grâce à l'apparition du synthétiseur, de nombreux genres musicaux se sont développés. On notera la house, la techno, la trance, le downtempo, le beat, la bass music, la hard music et les autres genres, chacun ayant des sous-genres. Je vais vous épargner toute la liste des DJ qui existent, car sinon ma chronique serait plus longue que prévu et certains auditeurs vont décrocher. Et pourtant, un DJ du nom de Laurent Garnier, qui n'a pourtant rien à voir avec les Jean-Point, a été nommé chevalier de la Légion d'honneur en 2017 pour avoir contribué à la démocratisation de la techno en France dans les années 80. Pour conclure, comme la musique en général, la musique électronique a aussi toute son histoire et ne doit pas se limiter qu'à un seul et unique genre.
Merci Dimitri. Merci chers auditeurs, nous retrouvons pour un prochain magazine.